depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a lancé une réquisition d'informations sur les dossiers bancarisation et demande aux différentes banques impliquées dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État de fournir des rapports des payes exécutées depuis 2011. Le montant de reliquats reversé dans les comptes du Trésor public, l'effectif et les cas des doublons. Selon le rapport des enquêtes préliminaires, près de 250 millions de dollars américains destinés à la paye des fonctionnaires et agents de l'État ont été partagés entre 50 personnes du mois d'août 2011 au mois de novembre 2019. Une somme qui payait 133 253 agents fictifs et 43 253 doublons. Comment commentez-vous cette situation? 081 890 4969, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine réalisé et mis en onde par Polydor Basunga. Pour moi, Pierre et la magie, c'est un réel plaisir pour vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la magie.
Fariel, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Bonjour Fariel.
Bonjour M. Pierrot et la magie et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Fariel.
Oui M. Pierrot, moi je suis en train de saluer cette démarche que mène le parquet, mais je suis en train de mettre une crainte par rapport à cette démarche, parce que la démarche vraiment est intervenue en retard par rapport à toutes les informations que nous avons reçues de la part des agents et fonctionnaires de l'État. C'est pourquoi nous voulons vraiment que toutes ces banques puissent vraiment fournir les informations réelles par rapport à la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Parce que ces banques doivent quand même travailler d'une manière où nous allons constater tous la transparence. Mais la transparence en question est vraiment difficile d'être constatée. C'est pourquoi nous voulons vraiment que ces banques puissent nous fournir des informations réelles. Parce que, M. Pierrot, vous êtes aussi sans savoir que ces banques ici sont en train aussi de profiter l'argent du trésor et de l'État, parce que les agents vraiment ne sont plus payés d'une manière correcte. Vous voyez comment l'argent de l'État est en train d'être dilapidé par toutes ces banques. Mais en soi, M. Pierrot, la bancarisation n'est pas du tout mauvaise. Parce que quand nous voyons aussi d'autres pays, l'État se sert des banques privées à cette fin d'aider les agents et fonctionnaires publics de l'État dans la paie. Mais ici au Congo, M. Pierrot, toutes les institutions vraiment sont caractérisées de l'impunité et de la corruption, voire même les détournements. C'est pourquoi nous voulons vraiment voir ces informations-là vraiment correctes. Et les banques qui investiront aussi de présenter les informations correctes seront sanctionnées et les auteurs seront aussi poursuivis, M. Pierrot.
Alors, Fariel, comment expliquez-vous que le gouvernement, en initiant la bancarisation, l'idée exactement, c'était de lutter contre l'effectif, de lutter contre le doublon? Comment estimer qu'à ce jour, qu'on ait encore des fictifs et des doublons, l'argent pour lequel on estime que cet argent n'est jamais retourné dans le trésor? Comment expliquer ça? Le même gouvernement avait initié la bancarisation pour lutter contre cela et que ces pratiques continuent pendant qu'on est en train de pratiquer la bancarisation.
C'est pourquoi, M. Jody et M. Pierrot et la mairie, nous sommes en train de féliciter aussi le président Félix Antoine Tshisekedi par rapport à la lutte pour le changement de mentalité. L'homme congolais, M. Pierrot, est caractérisé par la corruption, les antivaleurs et tout consort. C'est pourquoi il faut d'abord nettoyer la mentalité de l'homme congolais. Parce que si l'homme congolais ne change pas, ça sera difficile dans toutes les démarches de l'État congolais mène et que toutes les institutions aussi privées ainsi que publiques mènent. C'est pourquoi nous voulons ce changement. Et nous ne pouvons pas aussi oublier l'adage de César Chirac, le président de Chirac qui disait « Je ne m'engage pas dans un combat pour les perdre, mais je m'engage dans un combat pour vaincre les batailles. » C'est pourquoi nous voulons voir vraiment le changement dans toutes les institutions et que ces banques puissent nous fournir les informations réelles par rapport à cette situation.
Merci beaucoup Fariel, vous êtes à Kananga et vous l'avez dit, il faut que les banques fournissent vraiment des données réelles parce que on ne peut pas comprendre comment la bancarisation a été instaurée pour lutter contre le détournement de deniers publics et qu'on dise aujourd'hui que beaucoup d'argent échappe au trésor public en partant de cette opération de la bancarisation. Merci beaucoup Fariel. Pascal, vous êtes à Bounia en Ituri. Merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour Pascal. Pascal, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Pascal qui est à Bounia. Jean-Marie, vous nous avez appelé de Kasumbalesa. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Jean-Marie.
Ah oui, à mon humble avis, je salue d'abord la procédure de la justice parce que c'est une procédure qui est tellement salvatrice. Il va favoriser à déceler tous les systèmes machiavéliques qui ont mis notre pays dans un chaos ou bien dans un sous-développement qu'on n'arrive pas à se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème repose sur la finalité de la procédure. Vraiment, nous savons que les banques viendront pour s'expliquer, mais la justice va faire le tour à ce que si une banque manque des arguments solides sur ce problème, qu'il soit poursuivi. Ou bien même s'il cite une personne dont même la justice, parce qu'au Congo nous savons bien qu'il y a encore des intouchables, ils vont citer un nom d'une personne ou bien de quelqu'un, dont on sait que non, on ne doit plus l'arrêter parce que bon, on avait eu l'ordre de qui ou bien de qui. Alors la justice va faire le tout pour que les informations ou bien l'argent détourné soit restitué aux Congolais.
Alors, mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que, en partant de ce qui avait initié la bancarisation, quand on estime qu'il y a beaucoup d'argent qui échappe encore, c'est que la bancarisation a été aussi utilisée comme un mécanisme hein, pour pouvoir mettre dans la poche l'argent du trésor public. Alors, pour vous, non seulement les banques privées pourront fournir les éléments, mais qu'est-ce qui doit être fait au-delà par rapport à la question de la justice? Vous avez évoqué cela, vu la gravité des faits, par exemple, relevés jusqu'alors par l'enquête préliminaire de la justice.
Ah oui. Bon, l'initiation de la bancarisation n'était pas mauvaise, mais c'est les gérants de cette bancarisation qui ont pris une autre direction. C'était une façon de s'échapper au détournement de l'argent qu'on payait aux fonctionnaires. Mais ceux qui utilisent maintenant la bancarisation deviennent maintenant des détourneurs. Mieux vaut seulement rentrer dans la procédure de la bancarisation normale. Ouais. Rentrer dans sa pensée. C'était pour lutter contre la corruption et contre le détournement. Maintenant, ils ont maintenant échappé à la vision de la bancarisation. Ils sont allés à côté.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie, vous êtes à Kasumbalesa. Il faut vraiment retourner à la vision originale, on peut dire ainsi, de la bancarisation qui était de faire à ce que le salaire des fonctionnaires soit payé sans qu'il y ait tous ces intervenants qui profitaient de la paye pour pouvoir soutirer l'argent sur l'enveloppe salariale. Mais malheureusement, ceux qui ont mis en œuvre la bancarisation, quelques-uns ont eu l'idée de pouvoir l'utiliser pour continuer à commettre les mêmes bévues. Merci beaucoup. Pascal, je crois, il est retourné sur les antennes. Il est à Bounia. Pascal, merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, journaliste. Merci beaucoup pour cette opportunité.
On vous écoute, Pascal, oui.
Oui, on se poserait la question de savoir à quoi a servi cette bancarisation tant chantée. On s'attendait à une augmentation vertigineuse des salaires des fonctionnaires de l'État. Mais depuis lors, le salaire n'a jamais été augmenté. Et nous disons que ces gens-là, malhonnêtes qu'ils étaient, ils ont toujours joué avec le taux de dollar contre le franc. Franchement, on n'a pas senti l'augmentation, alors qu'on se disait finalement avec la bancarisation, beaucoup d'argent qui était récupéré par-ci, par-là, devait peut-être aider les fonctionnaires à se retrouver. Mm-hmm. Donc, c'était un échec. On dirait, ces gens-là on fait cette bancarisation juste pour leurs intérêts. Quand on sait qu'il y a un groupe de détourneurs, c'est là qui ont plutôt profité de cette bancarisation. Finalement, on se pose la question pourquoi cette bancarisation a été initiée. Et nous disons qu'il y a eu un réseau, surtout en tête, le ministre, l'ex-ministre, l'ex-premier ministre Matata, qui était l'initiateur même de cette bancarisation. C'était en fait une très bonne chose. Mais nous regrettons, hein, nous regrettons vraiment que cela puisse profiter seulement à un groupe de gens. On n'est pas fiers, hein, d'être appelé fonctionnaire de l'État, un enseignant, un militaire, un policier, un infirmier. Est-ce qu'ils sont fiers d'être appelés fonctionnaires de l'État aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Conséquence directe, aujourd'hui nous voyons, il y a la corruption qui gangrène le secteur de l'enseignement. Ça ne va pas. Et la corruption, par exemple, dans d'autres secteurs, et puis les militaires, eux-mêmes ne se retrouvent pas, les policiers. Finalement, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal, nous regrettons cela vraiment.
Voilà. Alors, Salim, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Pascal. Vous avez rejoint presque Josias, hein, qui nous écrit des Kassai Central sur la page Facebook, qui dit, bon, nous, on pensait que la bancarisation allait vraiment éradiquer la corruption, surtout par le fait que ceux qui manipulaient les listings de payants se retrouvaient à travers la paye directe. Merci beaucoup, hein, Pascal. Alors, voilà. Et malheureusement, les mêmes pratiques ont continué en pleine bancarisation. Et ça, c'est l'écrit de Josias qui est à Kananga, Valentin qui est à Kamina dit ceci. La problématique, c'est que aujourd'hui, il faut quand même arriver à identifier les véritables fonctionnaires de l'État que nous avons. Les gens profitent de toute cette confusion. On n'a jamais maîtrisé l'effectif réel des fonctionnaires de l'État. Et c'est pour cela que les gens en profitent pour pouvoir continuer à détourner l'argent. C'est plutôt Valentin Ilunga qui nous écrit Dilebo. Serge, lui, à Kamina dit ceci. Il paraît qu'ils sont encore nombreux, pas seulement dans la fonction publique, presque dans tous les ministères, dans tous les secteurs. Il y a toujours des doublons et des fictifs et on profite pour sortir des masses d'argent. On le verse à la banque tout en sachant qu'on pourra aller à la banque pour récupérer cet argent alors qu'on pensait que la bancarisation pourrait résoudre cette question. Alors, Bernard, vous êtes à Kananga, vous gardez la ligne. Nous avons Simon Tiloulou qui est avec nous. Simon, vous êtes dans les secteurs de l'enseignement, vous êtes de la société civile. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de partout le monde et bonjour à vous également.
Voilà. Et vous êtes enseignant, société civile. L'opération de la bancarisation, les reliquats récupérés, on estime que depuis 2011, 250 millions de dollars ont été partagés entre une cinquantaine de personnes. Faudra-t-il encore savoir qui sont ces personnes qui se sont partagées cet argent? Et cet argent était destiné à payer 133 253 agents fictifs et 43 253 doublons. Alors qu'on estimait qu'avec la bancarisation, on allait mettre fin à ces systèmes de fictifs et de doublons. Comment vous réagissez, vous qui êtes aussi dans le même secteur de l'enseignement par lequel, bien sûr, on avait commencé la bancarisation?
Oui, justement, la bancarisation, c'est pour nous, c'est une autre forme d'escroquerie électronique maintenant. On est passé d'escroquerie manuelle à une escroquerie électronique. Mais ici, la petite différence, c'est qu'avec la paie manuelle, sur le peu que gagnait l'enseignant, les agents payeurs rançonnaient également des petits montants. Ici, maintenant, c'est une escroquerie à une grande échelle. Parce que si vous voyez très bien les choses telles qu'elles se passent, aujourd'hui, les détournements ou sinon les fictifs sont partagés entre les comités de suivi des payes, l'Association congolaise des banques, le ministère des Finances, budget également, et en dernier ressort, le SECOP aussi pour les enseignants. Pourquoi je dis ça? Vous imaginez, par exemple, dans l'enseignement, on paye les postes et non l'enseignant. Une sorte encore de forfaiture qu'il faudrait corriger. C'est le poste qui est payé. Alors, le nombre d'enseignants qu'on avait avant 2011, ce nombre d'enseignants signifiait exactement les postes qu'il y avait. Et quand on a bancarisé les salaires des enseignants, or l'enseignant, comme on paye les postes, il y a eu des enseignants qui ont remplacé d'autres enseignants dont les noms n'étaient jamais effacés sur listing. Et ces enseignants dont les noms n'étaient jamais effacés sur listing ont eu, après le temps, la bancarisation les a tous ignorés. Ce qui a fait qu'il y a eu une masse d'argent importante qui était restée. Et cet argent, on ne sait jamais c'est parti ou parce que l'enseignant qui occupait les postes d'un enseignant décédé ou déserté il y a 10 ans, et que le nom des déserteurs continue à sortir, la banque n'acceptait pas les nouveaux enseignants-là, ce qui faisait qu'ils perdaient la rate directement les salaires. Chez nous, par exemple, au Congo central, on a perdu, il y a 30%, 32%, je crois, d'enseignants avaient perdu les salaires. Or, les salaires existaient. Et jusque-là, on ne sait pas c'est parti où. Mais quand vous suivez, parce que l'État congolais a donné la responsabilité à l'Association congolaise des banques, pour affecter les agents de l'État dans les banques. Et ça s'est fait à Kinshasa. Voilà les manœuvres. L'Association congolaise des banques n'a pas de ramifications. C'est une structure qui ne reste qu'à Kin. Dans les provinces, elle n'existe pas. Alors que c'est elle qui a eu la responsabilité. L'État congolais lui a donné cette responsabilité pour qu'elle affecte les agents dans les différents opérateurs de paye. Alors, il y a l'Association congolaise des banques signe avec le président des comités de suivi des payes, qui est de la Banque centrale.
Oui.
Et lui ne fait que le suivi des payes. Et celui qui fait le suivi des payes, lorsqu'il y a affectation des enseignants ou des fonctionnaires dans une banque, et le président des comités de suivi des payes ne fait que signer, ne fait que valider. Alors, c'est dans ce genre de quoi vous verrez la masse d'argent. Par exemple, actuellement, avant janvier, on était, les enseignants payés à travers la République étaient au nombre de 410 220. Après janvier, nous sommes devenus, je crois, c'est 542 834 enseignants. C'est ce qui est retenu au niveau des budgets. Mais quand vous faites le suivi sur terrain, vous verrez que nous ne sommes pas 542 834. Vous verrez parfois nous sommes encore dans les 490 quelques. Donc au moins des centaines de mille, nous ne savons pas où sont ces enseignants, ils travaillent où. Il y a même des enseignants qui restent à la maison, pas plus tard qu'hier. J'ai reçu un monsieur, un inspecteur judiciaire, qui est venu me dire qu'il y a un enseignant qu'il connaît bien, il va toujours, il est payé, mais il ne travaille pas.
Alors voilà, ça dit qu'il y a quand même, il faut qu'on ait une volonté vraiment de pouvoir améliorer. Cela veut dire que l'intention...
La volonté de pouvoir améliorer dépend de l'équipe mise en place. Vous savez, par exemple, ce qui se passe à l'EPSP, c'est une honte. Le président a donné l'ordre qu'on puisse inspecter les FECOM. Vous savez ce qui se passe? Le ministre fabrique quelques gens de cette obédience, alors qu'il fallait chercher un comité d'audit indépendant, qui pouvait être même de l'extérieur. Mais on recrute les gens qui doivent auditer parmi les gens qui sont dans le même système.
Et là, c'est très compliqué. Également. Voilà. Alors, on revient à vous tout à l'heure. Vous avez un témoignage très, très intéressant, comme vous l'avez expliqué, Simon. On revient à vous tout à l'heure. On va écouter Bernard qui est à Kananga. Simon, gardez la ligne. On revient à vous. Bernard, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange, Bernard. Bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
On vous écoute, Bernard.
Bon, merci pour m'avoir associé à ce sujet très crucial. La charge de gérer confère une dignité, car elle est une preuve de la confiance si d'une manière ou d'une autre, le gérant de la banque se comporte en égoïste et détourne à son profit personnel l'argent mis en valeur de l'État, il abuse de la confiance qui lui a été placée en lui. Nous saluons les actes de bravoure et les enquêtes menées par les enquêtes par ces détourneurs ont tiré la tête de l'État. Mm-hmm. Imaginez-vous, monsieur, l'argent qui pouvait servir et de payer les agents de l'État
Ah, oui, oui. En fait, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, Bernard, parce que votre ligne sort entrecoupée, déplacez-vous tout en intervenant. On vous écoute.
Ok, ok. L'argent qui pouvait servir pour les pays de l'État, vous avez 50 personnes qui vont détourner 150 millions de dollars. C'est impossible, monsieur Pierrot.
Mmh. Alors, mais...
Pour ce faire,
oui.
Le parquet doit mener les enquêtes transparentes et impartiales pour que les détournements.
Alors là, on a des petits soucis hein, pour vous suivre très très bien, Bernard. Merci quand même. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que on se plaint que les nouvelles unités ne sont pas payées, alors que autant d'argent sur les reliquats, sur la bancarisation, pouvait être récupéré, reversé dans les trésors publics et pouvoir payer les nouvelles unités. Plusieurs commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Chico Baza qui est à Kinshasa. Elle dit ceci, on avait institué le système de bancarisation, je savais que c'était pour couper la chaîne de détournement qui s'opérait par les chefs des divisions, bureaux, des comptables, afin de donner un souffle au trésor public. Malheureusement, la bancarisation n'est venue que remplir les poches de certaines autres personnes, que ce soit politiques, administratives, en complicité avec certaines banques et agences de transfert des fonds qui sont chargées de la paye. Alors ici, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des enquêtes hein, qui sont ouvertes, puisse aller jusqu'au bout et qu'on sache qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Junior Jackson Bofete qui nous écrit de Ikela dans la province de la Chuapa dit ceci, c'est très déplorable. Alors là où il est, il y a une banque privée qui vient payer. Elle vient sporadiquement, des fois les gens attendent plus de 6 mois pour avoir leur salaire et là il y a une confusion entre l'argent qui doit être payé, ce que la banque le remet, ça pose autant de problèmes. François Okundi qui est à Ilebo, pour lui, il dit que la démarche est salutaire, il faut qu'on permette quand même que ceux qui ne sont pas pris en charge par les trésors publics d'être payés, qu'on récupère les reliquats qui sont apparemment détournés pour qu'ils soient orientés vers les trésors publics. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut arriver vraiment à rendre un service responsable. Alors Ali, vous êtes à Kalemi, merci de nous avoir rejoints dans cet échange Ali, bonjour.
Bon, je suis Ali Mouchaba, depuis Kalemi.
On vous écoute, oui.
Bon, merci beaucoup pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir aussi intervenir en cette émission. Mon point de vue par rapport à la thématique du jour, par rapport à la thématique du jour, est posée sur deux points cruciaux, dont le premier point, c'est par rapport à la passivité de nos autorités. Parce que la passivité de l'autorité est à la base de tout ce que nous sommes en train de connaître. Mmh. Et non lancer la procédure de bancarisation sans procéder par un suivi cohérent. On a juste donné à quelques personnalités la charge de faire quelque chose sans que ceci ne soit préalablement contrôlé. Et le manque de contrôle leur a permis de faire ce que bon leur semble. C'est ainsi que nous avons constaté un silence absolu avant que nous puissions déclencher ces problèmes. Et le deuxième point, monsieur le journaliste, je vais demander mon plus au parquet général, c'est-à-dire à la justice congolaise, de mener les enquêtes de mort afin que la vérité éclate et ne pas perdre et ne pas faire la poudre aux yeux. Et d'avoir des conséquences, qu'on parvienne à mettre la main sur ceux qui ont commis ces faits. Aussi, messieurs les journalistes, nous n'aimerions pas que cette affaire ne produise aucun fruit. Nous aurions voulu aussi que la population sache que la justice a mené les enquêtes à l'issue desquelles on est parvenu à arrêter tous ces gens. Aussi, s'il faut ajouter, on doit procéder par une procédure qui permettra d'arrêter les pays. Pourquoi ? Parce que ces actes posés par nos autorités contribuent au sous-développement du pays. Il y a les enseignants qui souffrent. Il y a des militaires qui sont mal payés. Mais cet argent détourné par l'autorité devrait servir à tous ces gens. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Ils n'ont pas voulu que la justice ne passe de la poule de l'Ébat. C'est un effet. On lance toujours les bonnes actions, mais la concrétisation fait toujours défaut. Mais aussi, l'état de droit n'est pas celui dans lequel on arrête les gens des ordres, mais plutôt celui dans lequel on respecte le texte les mots. Ainsi, nous avons voulu que ces personnes soient poursuivies. Et ces poursuites doivent faire dans l'unanimité, c'est-à-dire quoi? Tout le monde va être concerné. Il ne doit pas y avoir ceux qui seront épargnés, vu leur trait social, vu leur statut, vu leur qualité qu'ils sont en train d'occuper. Et par voie de conséquence, qu'on parvienne à les sanctionner. Pourquoi? Parce que la peine joue aussi une fonction exclusive, c'est-à-dire la sanction qui leur sera infligée donnera la peur, la foudre à l'une des personnes de pouvoir te livrer à des forfaits au risque de subir aussi des lourdes peines. Voilà ce que nous avons à dire.
Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup Ali pour tous les arguments. C'est très intéressant. Il faut que la justice aille jusqu'au bout. Et c'est de cette façon qu'on peut décourager les autres. Jean-Claude Bondo nous écrit sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Pour lui, il estime qu'il faut une mise en place du système électronique en réseau. Numérisation des données électroniques des identités des agents publics s'avère très important. Le renforcement des capacités de nos agents dans la fonction publique est d'une importance capitale. Voilà les raisons qui démontrent que il faut vraiment un recensement de la population, il faut des bases de données numériques, tout ça, ça peut protéger contre ces détournements. Alors, Peter, vous gardez la ligne, vous êtes à Chicapa. Nous allons revenir à vous ainsi qu'à Simon Tiloulou des moments à l'autre. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alors, nous allons à Chicapa, dans la province du Kasaï. Peter, merci de nous avoir rejoint. On vous écoute. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci M. Kiro Elameji pour le choix de la parole. C'est Peter Maboudi, comme vous l'avez précisé, je suis à Chicapa.
Oui, Peter, si vous pouvez un peu ajouter un peu de tonus dans votre voix, et puis vous êtes déjà sur les antennes. On vous écoute, Peter.
Oui, merci de la parole que vous m'accordez, M. Jody. Je pense que dans une gestion orthodoxe d'un État, il y a les institutions qui sont chargées pour la mobilisation des recettes. Il y a aussi des institutions qui sont chargées pour le contrôle et la vérification des recettes si elles sont bien canalisées dans les trésors publics. Et le système financier, le circuit financier congolais, sont entachés de beaucoup d'irrégularités, surtout la bancarisation qui était un moyen très efficace de vol et de détournement intellectuel planifié et organisé par les initiateurs. Monsieur Jody, pourquoi j'ai dit ça? Au sein des institutions du pays, nous avons l'inspection générale des finances qui, aujourd'hui, nous saluons la bravoure, ni c'était les enquêtes de cette institution. On ne devrait pas savoir que combien l'État perdait au cours des années précédentes. Donc, dans la gestion d'un État, nous constatons que dans les temps passés, il n'y avait pas une gestion, il n'y avait pas la clarté, la sincérité dans la canalisation des recettes de l'État. Aujourd'hui, il y a la Cour des comptes qui est là. Nous avons les cabinets des audits d'experts comptables. Nous avons également l'inspection générale des finances. Monsieur Jody, quand nous voyons les inspecteurs des finances et les auditeurs, les deux institutions ici ont une mission principale. Le tout tourne autour du contrôle. Et les inspecteurs, leur rapport ne doit pas seulement être abouti par la sanction et également aussi par les conseils. Un auditeur a pour mission non seulement de contrôler, aussi de sanctionner et donner des conseils. Aujourd'hui, après une analyse faite, M. Jody, M. Pierrot et le maître, je m'excuse, nous avons constaté que les entreprises au Congo, tout comme les institutions, bien sûr, certaines ont été contrôler, évaluer. Mais le problème, c'est qu'on ne parvient pas à dénicher toutes les poches de sorties ou de détournement des fonds de l'État. Et je voudrais que ces enquêtes, M. Pierrot et le Ménage, puissent élargir dans les agences de transfert impliquées aussi dans la paie, non seulement des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi et surtout de la police nationale congolaise et FARDC, subissent le même sort de la part de leurs autorités supérieures. Vous allez constater avec moi que certains agents et fonctionnaires de l'État, voire même les policiers, ne sont pas payés à travers les banques, mais plutôt à travers les agences de transfert, à l'occurrence la Soficom. Aujourd'hui, je suis à Tika par monsieur Pierrot Lemengi. Vous allez constater avec moi que beaucoup de policiers ici des territoires de cette province sont ici sur place réclamant leur salaire, détournés par des autorités bien connues, bien identifiées, mais jusque-là, on ne sait pas combien ces autorités doivent continuer à faire.
Voilà. Alors, ça dit qu'on comprend. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, John, de nous avoir appelé de Tshikapa. Merci pour ces témoignages. On comprend que le souci était la transparence, la lutte contre les détournements de salaires par le mécanisme des payes qui passait par plusieurs personnes à la fois. Et là, vous vous rendez compte que ça devient encore très compliqué en utilisant les sociétés de messagerie financière. Les gens se déplacent. On ne sait pas aujourd'hui. Il faut qu'on ait vraiment la volonté de mettre la clarté dans tout ça. Merci en tout cas. Alors John, vous êtes à débat, vous gardez la ligne. Simon Tiloulou est avec nous de Matadi, lui qui est syndicaliste, enseignant, membre de la société civile. Simon, vous avez suivi les uns et les autres, vous avez dénoncé d'ailleurs ce qui se passe pour l'audit au niveau de la CECOP, tout ça. Voilà autant de problèmes qui se posent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que quels doivent être les mécanismes les plus efficaces qui peuvent aider le pays dans cette question de la gestion des salaires des enseignants, des agents et fonctionnaires de l'État, Simon Tiloulou?
Oui, j'ai suivi les commentaires des uns et des autres, mais le problème, il est d'abord structurel. Donc, il va falloir vraiment réfléchir sur la machination, tout ce qui se complote pour récupérer de l'argent. J'ai bien expliqué que l'argent, lorsque au niveau des budgets, on envoie l'enveloppe finance, dès que l'argent arrive dans des banques, pour répondre à Justin, les gérants qui sont dans des différentes banques ici, ils reçoivent des ordres. On leur dit retourner les montants de tel ceci. Et il retourne ça, pas au trésor public, mais à des personnes. Ici, il y a eu des soupçons. Par exemple, du côté enseignant, il y avait 150 quelque chose enseignant qui flottait. Les vraies mafias se passent au niveau de l'Association congolaise des banques. La question dont on se pose, pourquoi l'Association congolaise des banques n'est pas décentralisée? Pourquoi? Parce que c'est l'Association congolaise des banques qui affecte les effectifs dans les différentes banques. Et comment ça se fait sur le terrain? Vous avez par exemple un opérateur de paye qui est ici à Matadi, qui paye par exemple l'ordre des pharmaciens. Alors, l'ordre des pharmaciens est payé par cet opérateur de banque. Et on va à Tiela, par exemple, où cette banque n'existe pas, qui paye l'ordre des pharmaciens. Donc, les pharmaciens qui habitent Tiela là sont tenus d'être payés par à la volée, c'est-à-dire des gens de la banque qui viennent avec les sacs d'argent, ils se fixent dans un coin, un jour 24 heures après. Si vous n'êtes pas là, ils vont rentrer avec l'argent. Pourquoi ils ne font pas, si ici, à Matadi, tel opérateur de banque paye les pharmaciens, et on donne la paye à la banque qui est à Tiela? On ne le fait pas. Non, mais on a boutiqué beaucoup de choses. Donc, l'Association congolaise des banques, du fait que par sa structuration qui est nationale, donc c'est seulement ces groupes de nationaux. Parce que vous savez, la fraude, lorsqu'elle devient aussi décentralisée, ça court le risque d'être repéré facilement. Et on a boutiqué ça au niveau de Kinshasa. Les policiers qui sont payés ici par tel opérateur de banque. Alors, le même opérateur de banque qui paye à Matadi, c'est le même opérateur de banque qui est censé de payer tel policier dans tel endroit où ils n'ont pas un guichet avancé. Donc, il y a tout un imbroglio bien aménagé qu'ils ont mis en place pour essayer un peu de détourner l'argent du trésor public. Donc, les anciens systèmes continuent. Alors, ça, c'est pour Justin. Mais nous voulons aussi dire que, aux uns et aux autres, les NI dont il est question, mais c'est encore une escroquerie très grave. Vous imaginez, avant janvier 2020, on avait, par exemple, dans le secteur de l'éducation, les nombres exacts étaient connus et publiés partout. Les enseignants qui n'avaient pas de salaire étaient au nombre de 187 000. Ceux qui n'avaient pas de salaire, et ceux qui avaient de salaire étaient au nombre de 410 220. Mais, en janvier 2020, on va payer 132 614 NP. Donc, si vous faites la différence, 132 614, il va vous rester 54 386 NI. Alors, dès que la machine du pouvoir a vu que le gouvernement a réussi à payer les 132 614 NP au mois de janvier, tout le monde était payé, c'était une façon pour chercher à créer des fictifs. Et vous verrez les arrêtés du ministre de l'EPSP. Tous ces arrêtés qui augmentent les agents dans les bureaux gestionnaires, ça date entre mars et juin. Tous les arrêtés. Il a créé des services de la division, sont devenus des directions. Or, quand c'est devenu une direction, il y a l'augmentation des salaires et puis création d'autres services. Et c'est dans ces services où on a mis des fictifs. Il a pris le CERNI, qui est un service, c'est devenu direction. Il crée des services. Il a pris le CIG, qui était l'informatique et statistique. C'est devenu une direction. Il crée des services. Ils vont devoir y affecter des fictifs par des arrêtés datant de mars 2020 jusqu'à juin comme ça. Alors, nous avons senti, au lieu le nombre qui était 54 386, a pris une augmentation extraordinaire avec des fictifs. Donc, on a ajouté 90 558, ce qui a donné le nombre de 144 994 enseignants à payer. C'est ce qui rend l'équation difficile. Parce que quand vous suivez les discours du président du 31 décembre 2019, il avait promis que le NP serait payé au premier trimestre de 2020, ce qui a été fait. Mais les ennemis du Congo, quand ils ont vu qu'on a payé le NP, ils ont trouvé ça une façon, un alibi pour créer encore des fictifs et rendre l'opération impossible. Ils ont ajouté des gens de manière extraordinaire et accidentelle. Mon cher, de 54 386 à 144 944. Donc, on a ajouté 90 558 agents, fictifs ou pas, pour que l'équation devienne difficile.
Alors, ça dit qu'on se rend compte que l'État congolais lui-même, à travers les différentes structures officielles, que ce soit le ministère, que ce soit le comité de suivi de la paie, cela veut dire qu'on ne peut pas en même temps, on veut améliorer, mais en même temps, ceux qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, public, de mettre de l'ordre, eux-mêmes constituent encore un danger et un couloir par lequel les pratiques continuent.
À la fois avec son contraire. Il suit une chose à la fois avec son contraire. Donc, venir ce gouvernement qui gère, il y a des contradicteurs et il y a ceux qui sont droits. Donc, il y a les uns qui sont là pour faire échouer les autres
à la misère du peuple.
Mmh. Alors et voilà. C'est ça même l'échange, c'est exactement ça qu'on arrive quand même à vivre, n'est-ce pas? C'est ces changements qu'ils soient réels. Ce n'est pas possible qu'au même moment on veut mettre de l'ordre, au même moment on continue à ajouter, à créer d'autres structures, d'autres services qui font augmenter encore les nombres d'effectifs. Alors on revient encore à vous, le temps d'écouter John qui est en Demba et Marie-Paul qui est à Kisangani. John, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. John, vous êtes en Demba, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis des lignes avec John. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour cher journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute Marie-Paul.
Oui, écoutez monsieur le journaliste, cette réquisition du parquet général près de la cour de Kinshasa vaut son pesant d'or et mérite les approbations populaires parce que il est inadmissible que la RDC qui a un taux de 85% de ses emplois, mais paradoxalement, on trouve que dans la palette de ceux qui travaillent, qui est les uns qui ne reçoivent, qui sont mal payés et les autres ne reçoivent rien de l'État. En même moment, il y a ceux-là, quelques individus, justement, qui sont en train de se faire des santé financières dans les finances publiques de l'État. Alors, monsieur le journaliste, ce qui certifie que l'opération de bacarisation n'a pas été faite de manière idoine. C'est-à-dire, les objectifs de la bacarisation ne sont pas atteints. Alors, et aussi, lorsque vous faites une observance des éléments des opérations financières en RDC, vous allez vous rendre que c'est vraiment intriguant de voir que les finances publiques de la RDC prend des envols de telle manière que il y a des gens qui sont payés plus de 2 fois, plus de 3 fois, plus de 4 fois. Parce que ce sont des situations en principe qui devraient être dénoncées par des banques parce que tous ceux-là que l'État prend en charge, tous ceux-là, les fonctionnaires que l'État paye, leurs noms, leurs identités sont bien déclinés à toutes les banques. Mais ce qu'il fait ici, c'est que nous voyons que il y a des circuits de gens qui sont bien organisés, une criminalité organisée, de telle manière qu'il y a ceux-là qui touchent plusieurs fois et l'argent qui provient justement de l'État. Ce qui fait même qu'il y a d'autres qui ne touchent pas. Alors, devant une pareille situation, monsieur le journaliste, de mon sens, je pense que la réquisition de parquet général va peut-être aider les pays à rectifier les tirs financiers. Les pays doivent restituer les tirs financiers justement pour éviter que tous ceux-là qui sont commis à ce genre de pratiques ne puissent pas continuer et aussi ils soient tranqués parce qu'on doit quand même sauvegarder les finances publiques de l'État. Parce que le développement passe par la gouvernance des finances publiques. Si dans les mêmes pays, il y a des gens qui reçoivent 3 fois, 4 fois et des millions, les autres ne reçoivent rien. Les autres, ceux-là qui reçoivent ne reçoivent que des miettes. Je crois qu'il n'y a pas la justice distributive. Et nous allons pleurer le développement. Et si on n'est pas sérieux par rapport à la gestion des finances, à la gestion, à la gouvernance des finances, je pense que nous allons beaucoup plus faire le tour des ponts et le pays ne va pas développer. Parce que partout au monde, les banques ont des services à offrir dans une nation. Ce n'est pas pour rien que on a demandé la bacarisation parce que déjà au départ c'est le journaliste, il était vu qu'il y avait beaucoup de fuites de finances. Les comptables qui recevaient l'argent pour payer le personnel, ils mettaient les noms de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maîtresses. Maintenant, on a bacarisé. Mais avec la bacarisation, l'État devrait, en principe, avoir beaucoup de finances. Mais il se fait encore savoir que le même l'État, et à travers ses animateurs, ils ont encore multiplié, justement, les noms, les gens qui n'existent pas, les fictifs. Et à cela, nous sentons que on manque les gens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas employés, mais une palette de personnes et le minimum de ceux-là qui travaillent ne sont pas payés. Il y a toujours les ras-le-bol, il y a toujours des plénichements. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Je pense que le parquet doit continuer avec ses processus et traquer tous ceux-là qui sont commis dans ces criminalités organisées et essayer aussi, même si ce sont des banques qui sont pris dans ces mouvements, impliqués dans ces mouvements, et ces banques-là, on doit les demander les dommages et intérêts, et au point que si il n'y a pas de réparation, et on peut procéder aux réquisitions, parce que c'est tellement harassant, ça fait très mal. Dans un même pays, il y a des gens qui sont très, très bien traités, les autres ne font que planifier, les autres ne reçoivent rien. Les milieux qui sont volatilisés, ce sont des milieux qui devraient créer des entreprises, qui devraient employer les jeunes, qui sortent dans des universités, mais ces jeunes-là sont abandonnés, et nous avons que des consuliambiles à consuliambiles, et l'argent volatilisé, on ne sait pas. Donc, c'est l'absence.
Alors, là, je retiens Marie-Paul.
Moi, je les soutiens. Voilà. Ça doit aller dans ce sens.
Merci.
Pour trinquer les gourous.
Merci beaucoup, Marie-Paul, je retiens. Vous avez insisté sur la question de la justice distributive, cela veut dire que ce sont des actes intentionnels. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire que c'est par oubli que plus de 133 000 personnes sont payées depuis 2011 jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est par oubli que cet argent n'est pas retourné dans les trésors publics? Pour vous, vous dites qu'il y a une volonté manifeste et une intention de pouvoir subtiliser l'argent du trésor public, et pour ça, il faut que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Merci beaucoup, Marie Paul. Nous restons à Kisangani avec vous, Jean-Baptiste. Bonjour.
Bonjour la Radio Kati, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kati, particulièrement ceux du territoire d'Aro et dans le grand centre de négoces d'Arriver.
On vous écoute, Jean-Baptiste.
Alors, merci beaucoup de nous avoir touché dans cette interaction. Et c'est un sujet hyper important. Et d'abord, nous tenons à saluer cette enquête, car les questions surtout liées aux emplois fictifs sont vraiment à poison en République démocratique du Congo, et c'est vraiment déplorable. Hein, en revanche, nous voulons voir le terme de cette enquête, car le plus souvent, ce genre d'enquête ne trouve pas sa fin. Alors, on a longtemps entrepris ce genre d'enquête, mais malheureusement, du coup, on n'était pas à la fin de ce genre d'enquête. Le mal d'ailleurs de ces enquêtes, c'est que quand on veut entreprendre quelque chose de sérieux, et quelque chose qui peut mettre de l'ordre, qui peut établir un développement en place, malheureusement, on n'atteint pas, on ne part pas avec ça jusqu'au bout. C'est ça un peu la faiblesse de la République démocratique du Congo en général. Je parlais sur le plan général, et même dans d'autres institutions. Alors, en second lieu, nous souhaitons que ces enquêtes aboutissent à peine de traduire à la justice ceux qui sont, du coup, liés à ce genre d'enquêtes illicites. En ce genre d'acte, voulais-je dire, très illicite d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que le genre d'actes tels que les emplois fictifs, parce qu'il y a des gens qui sont adhérés dans ces emplois fictifs-là, et ça constitue des gens les passions de vol, et ça constitue des gens les passions de détournement. On a vu même au niveau aval, il y a effectivement des détournements, justement de vol à terminer. Et ça ne permet pas aux gens qui sont en dessous d'être bien rémunérés. Donc, je tiens ici d'abord à stigmatiser les enseignants. Voilà, les enseignants du cours en RDC sont des gens qui ne sont pas bien payés. Et où est l'argent qui est budgétisé d'habitude pour payer, rémunérer les enseignants? On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un ministère de l'enseignement mis en place pour budgétiser, pour mettre en place la question concernant le professeur et les enseignants des écoles primaires et secondaires? On se pose tant de questions. Et bah, du coup, vous allez attendre un jour comme ça des informations selon lesquelles il y a eu autant de millions pour la mise en place de la gratuité de l'enseignement, etc., 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 et pour la rémunération des élèves, de professeurs, des enseignants. Bah, du coup, sur le terrain, vous ne pouvez absolument rien. C'est vraiment déplorable. Et dans les cas contrastés, on est...
Oui. Oui, allez-y, rapidement, terminez, oui.
Oui, du coup, quand on ne trouvera pas, on ne mettra pas cette enquête jusqu'au bout, que lorsque cette enquête n'atteindra pas sa fin, et ce genre de comportements continueront toujours de voir jour. Donc, pour stopper ce genre de comportements très illicites, et d'ailleurs, tu n'es pas de la morale, il faut châtier sérieusement ceux qui sont bien évidemment identifiés comme les tireurs de ficelle ou ceux qui sont auteurs des acteurs avec nous, de ces actes, mm-hmm. soit de des emplois fictifs, de travail, de détournement de vol et de l'argent, des caisses de l'État, voter pour la mise en place de rémunérer le salarié qui sont au niveau, les ouvriers qui sont au niveau, au niveau bas.
Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Vous avez beaucoup insisté sur la question de la sérénité des enquêtes. Hein. On aurait, vous souhaitez vraiment qu'on aille jusqu'au bout, qu'on sache qui sont les personnes qui ont participé au détournement de ces reliquats, qui ont continué à percevoir l'argent sur les 133 253 agents fictifs et 43 253 doublons. Alors c'est ça votre souhait. Et d'ailleurs, c'est le souhait exprimé sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Eric Mwanda, qui nous écrit de Colusie, lui dit ceci: pour moi, il faut d'abord commencer à contrôler d'abord les CECOP, que ce soit au niveau central, provincial, parce que c'est là où se trouve le grand problème. Ismaël Mopoi s'étonne pour dire: pourquoi envoyer les salaires de fonctionnaires à la banque sans savoir qui sont exactement les gens qui doivent être payés, ils sont à combien? Est-ce que c'est fait à dessein qu'on ait oublié cela? François Ngandou encourage la justice et l'inspection générale des finances de poursuivre les enquêtes par rapport à cette question-là. 2011-2019, autant d'argent détourné. Et pourquoi? Beaucoup de gens savaient bien que cet argent était détourné et ils s'étaisaient. Personne n'en parlait. Il fallait attendre des enquêtes après autant d'années. C'est autant de messages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Junior Bompongo, lui, dit ceci: s'il y a des indices sérieux de détournement, je pense que c'est la Banque Centrale du Congo qui serait responsable de cette enquête, d'autant plus que l'État congolais lui avait conféré les prérogatives des suivis de la paie des agents et fonctionnaires de l'État dans le mécanisme des bancarisations. Il faut quand même que chacun fournisse à la justice les preuves, les documents nécessaires et que la population connaisse la vérité, parce que cet argent appartient à la population. Je crois, nous revenons à vous, Simon Tuloulou, pour terminer cet échange. On a suivi les uns et les autres. En bref, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que la bancarisation ne continue pas aussi à servir de canal ou de couloir de détournement des deniers publics?
Oui, merci beaucoup. Pour mettre fin à cette hémorragie, je pense que nous, dans la société civile de la République démocratique du Congo, pour laquelle je suis le coordinateur adjoint provincial, il y a des termes qui se disent: il y a le travail sans salaire et il y a le salaire sans travail. Ce genre d'expression se vit quotidiennement dans la fonction publique. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas des nouvelles unités ou des matriculés, qui n'ont jamais touché même pas les transports. Ils viennent matin et soir, nuit et jour. Ils conjuguent d'énormes efforts pour faire le travail. Ils n'ont pas le salaire. Ils font le travail, mais ils n'ont pas le salaire. Par contre, il y a des épouses de hauts fonctionnaires, il y a des neveux, il y a des nièces, il y a tout ça qui restent à la maison, mais qui est hors de salaire sans travail. L'IGF reste limite sauveur de la situation, si du moins il va tenir et résister aux menaces, même au sacrifice suprême. Donc notre espoir reste les enquêtes de l'IGF, pour que non seulement qu'on nous retrouve cet argent, que les mafras soient punis sévèrement et mis en quarantaine. Même je pense que même les enfants qui ont l'argent de ce genre de personnes devraient suivre en prison leur papa ou leur membre qui détourne, parce que ça fait tuer la nation. Ce qui se passe dans la fonction publique, c'est vraiment grave. Il faut chercher peut-être un ministre de la fonction publique honnête comme moi-même pour arriver à détruire tout ce qui est fait là. Comme quoi, bon, ce n'est pas toujours moi, mais il y a des gens aussi qui sont comme nous qui peuvent bien le faire. Si on aura toujours les récompensés politiques au ministère de l'EPSP, au ministère de la fonction publique, au ministère des finances, on a des récompensés politiques, rien ne va marcher.
Merci beaucoup.
Le chef va...
Allô? Voilà. Merci beaucoup Simon Tiloulou d'avoir accepté de partager avec nous vos témoignages et expériences sur la question de la paix et la bancarisation. Merci à Polydor Bassonga qui était à la mise en œuvre des réalisations de ce magazine que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Merci. Nous poursuivons le débat et échange sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Paroles aux Auditeurs, bien sûr, vous retrouve demain pour un autre numéro. Merci et au revoir.